Vous savez, c'était un cadeau. Et le fait que quelqu'un vienne vous le prendre sans savoir où, pourquoi ou comment, l'ignorance. Comment faire son deuil? Comment continuer à vivre?
Est-il acceptable que nous ayons permis la disparition, l'assassinat de nos plus vulnérables? La question est dérangeante. Elle remet en cause nos valeurs fondamentales. Les femmes les plus vulnérables de la société sont-elles traitées avec justice?
Depuis au moins 4 décennies, plusieurs femmes ont disparu sur la route 16.
Les familles des disparus, souvent issues des Premières Nations, le long de la route 16, surnommée la route des larmes, ont encouragé les enquêteurs à poursuivre leur travail.
Les familles espèrent que ce regain d'attention donnera un nouvel élan à l'enquête et à la pression publique jusqu'à ce que tous les cas soient résolus. Mais tant qu'il n'y aura pas d'autres arrestations, la route des larmes jettera une ombre sur la vie des locaux.
Pourquoi tant de tueurs en série en Colombie-Britannique?
La Colombie-Britannique est la partie la plus occidentale du Canada, à la frontière de l'Alaska, du Yukon, des territoires du Nord-Ouest et d'Alberta. La plus grande ville est Vancouver, avec une population d'environ 2,3 millions d'habitants, ce qui est en fait la deuxième ville du Nord-Ouest du Pacifique. Prince George, surnommé « la Porte du Nord », compte plus de 84 000 habitants. C'est la quatrième ville de la province. Depuis 40 ans, des femmes disparaissent et sont retrouvées assassinées le long de la route des larmes, un tronçon de route de 724 km allant de Prince George à Prince Rupert. Tristement célèbre pour cette série de meurtres et les injustices flagrantes qui ont été observées. Le Nord vit grâce à ses vastes ressources naturelles, comme les secteurs de la sylviculture, de l'exploitation minière, de la pêche, de l'énergie et de l'agriculture. Si la croissance économique est forte, les richesses ne sont pas réparties, ce qui oblige la majorité des petites communautés à vivre en dessous du seuil de pauvreté, avec un taux de chômage atteignant 92% dans certaines réserves des Premières Nations. La route des larmes est le noyau d'un problème beaucoup plus vaste concernant la manière dont les populations indigènes ont été traitées depuis le colonialisme. Ces meurtres ne sont pas seulement l'œuvre de tueurs en série, mais le triste résultat de problèmes systémiques et socio-économiques qui affectent les communautés des Premières Nations depuis des générations.
Il s'agit d'une zone géographiquement très vaste, ça nous préoccupe également, car on peut penser qu'il s'agit de crimes d'opportunité. Ils ne commencent peut-être pas ce jour-là avec l'objectif de trouver quelqu'un et lui faire du mal, mais ils savent pertinemment que personne ne saura jamais ce qui est arrivé à cette personne. Vous savez, il y a tant d'endroits différents où ils peuvent se cacher, tant d'endroits différents où ils peuvent se débarrasser des preuves.
Il y a beaucoup de routes, beaucoup de campagnes, et pour chaque kilomètre de route goudronnée, il y a probablement une proportion d'un millier de kilomètres de pistes. C'est un pays immense.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne s'agit pas d'un seul meurtre. Ce sont des meurtres en série. Ce sont aussi des opportunités saisies au vol et des imitations. À ce jour, des femmes sont toujours portées disparues et assassinées sur l'autoroute.
Croyez-le ou non, même s'il y a eu beaucoup de couverture médiatique, relativement parlant, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est la route des larmes.
La route des larmes, c'est principalement des disparitions de femmes des Premières Nations et c'est la raison pour laquelle on en a tant parlé dans les années 1990. Et l'une de ces femmes, c'était une adolescente, en fait. C'était ma cousine, Ramona Wilson.
C'est lorsque notre famille a été touchée personnellement qu'on a pris conscience du problème. Quand ma cousine, Ramona Wilson, a disparu, c'est ce qui s'est passé. Nous en avions toujours entendu parler à la télévision, mais on n'avait jamais vraiment réalisé l'impact que cela aurait sur nous jusqu'à ce que ça nous arrive.
On a vraiment commencé à parler de la route des larmes en 2002, lorsque Nicole O'Hare a été portée disparue. Auparavant, de nombreuses femmes et jeunes filles autochtones avaient disparu et avaient été assassinées. Mais lorsqu'on a vu les photos de Nicole O'Hare, une jeune femme souriante et heureuse, diffusée dans les médias, beaucoup de gens se sont sentis concernés. Tous les médias s'en sont fait l'écho et la nouvelle s'est répandue.
On l'a vue pour la dernière fois le 21 juin, elle faisait du stop.
Après la disparition de Nicole, l'expression « route des larmes » est devenue de plus en plus connue et largement utilisée. Plus important encore, les médias et le grand public ont enfin pris conscience que sa disparition n'était pas un incident isolé.
Je pense que pour nos communautés, c'était frustrant parce que, vous savez, il y avait un certain nombre de femmes autochtones qui étaient déjà portées disparues.
Des indigènes disparaissaient déjà depuis un certain temps. Ils se sont sentis ignorés. Puis une jeune femme blanche a disparu et la presse en a beaucoup parlé. Et, tout d'un coup, c'est devenu important.
Ce n'est pas Nicole le problème. Nos communautés autochtones qui ont cherché les leurs et ont vraiment essayé d'obtenir un peu de justice. Ces gens ont subi un double préjudice. Une fois quand leur fille, leur sœur, leur mère ont disparu. Et une deuxième fois, lorsque le système judiciaire les a totalement déçus dans leur quête d'une justice qu'ils méritent à juste titre. Il ne peut y avoir de solution tant que nous n'avons pas atteint la vérité et le cœur du problème. Il s'agit d'une question complexe. Les sources de cette violence à l'encontre des femmes et des filles autochtones sont complexes, mais il ne sera pas possible de trouver des solutions tant que la vérité n'est pas clairement établie. Et la réluctance de ce gouvernement, prouvée à maintes reprises, a montré le courage et l'initiative d'aborder ce sujet et de trouver la vérité est un troisième préjudice pour ces familles.
Il y a beaucoup de pauvreté dans nos communautés. Il y a beaucoup de chômage. Il y a beaucoup de problèmes avec. Il y a toute une génération de problèmes qui provient des internats, comme les pensionnats indiens.
Les conséquences des pensionnats vont probablement se ressentir pendant encore quelques générations et sous-tendent une grande partie de ce dont nous parlons ici. C'est la racine de la route des larmes et de l'anéantissement des cultures par de nombreuses politiques sur de nombreuses années.
Pendant près de 150 ans, la scolarisation obligatoire des enfants autochtones âgés de 7 à 15 ans avait pour but de retirer les enfants de leur famille afin d'oblitérer la culture indienne de l'enfant et d'assimiler les jeunes autochtones à la culture canadienne européenne dominante. Dans ces bâtiments, les jeunes enfants autochtones ont vu leur identité redessinée pour correspondre au modèle européen. Ils n'étaient pas autorisés à parler leur langue maternelle, à contacter leur famille ou à pratiquer un quelconque aspect de leur culture. Il a fallu près de 10 ans pour que le gouvernement s'associe à de nombreuses organisations autochtones afin d'entamer des efforts de réconciliation et d'apporter un soutien aux survivants du programme des pensionnats. Cette initiative lancée en 2007 a été suivie d'excuses officielles de la part du Premier ministre Harper en 2008.
Dans les années 1870, le gouvernement fédéral, en partie pour répondre à ses obligations en matière d'éducation des enfants autochtones, a commencé à jouer un rôle dans le développement et l'administration de ces écoles. Les deux principaux objectifs du système des pensionnats étaient d'éloigner et d'isoler les enfants de l'influence de leur foyer, de leur famille, de leur tradition et de leur culture, et de les assimiler à la culture dominante. Le gouvernement du Canada a mis en place un système éducatif dans lequel de très jeunes enfants étaient souvent retirés de force de leur foyer et placés loin de leur communauté. Ils étaient souvent mal nourris, mal vêtus et mal logés. Tous ont été privés des soins et de l'attention de leurs parents, grands-parents et communautés. Aux quelques 80 000 anciens élèves encore en vie et à tous les membres de leur famille et de leur communauté, le gouvernement du Canada reconnaît aujourd'hui qu'il a eu tort de retirer de force des enfants de leur foyer et s'excuse d'avoir agi de la sorte.
Par exemple, lorsque nous allions au pensionnat, ou que les gens allaient au pensionnat, les gendarmes venaient chercher les enfants si nous les cachions. Dans notre langue, nous appelons les gendarmes « nilshukun », ce qui signifie « les gens qui nous emmènent ».
Il nous a fallu 5 semaines de recherche sur le terrain dans le nord de la Colombie-Britannique pour nous faire une idée précise des relations entre la gendarmerie et les femmes autochtones du nord de la province. Nous avons constaté qu'un certain nombre de femmes et de jeunes filles avaient subi toute une série de mauvais traitements, allant de la fouille inappropriée par des agents masculins jusqu'à l'agression physique, y compris les coups et les cellules, ainsi que l'agression sexuelle et le viol.
Il faut rappeler que les Autochtones se méfient souvent de la gendarmerie.
Il s'agit donc avant tout d'essayer d'instaurer un climat de confiance au sein de la communauté.
D'une manière générale, les Premières Nations ne se tournent pas vers la gendarmerie pour obtenir de l'aide. Je pense qu'elle a toujours été considérée comme une menace envers notre peuple.
Nous avons constaté que la crainte de représailles de la part de la police pour avoir parlé de ce qui s'était passé était extrêmement élevée. À peu près au même niveau que les situations que nous avions vues précédemment dans des sociétés en conflit ou post-conflit, où les autorités étatiques elles-mêmes avaient été impliquées dans des abus.
J'ai dit demander aux gendarmes, et ces deux hommes à Saskatoon, c'était des indigènes qu'ils ont enlevés et congelés? Oh, ce n'était pas nous, c'était la police de Saskatoon. J'ai dit, vous êtes censés être des agents de la paix, pas des agents du tabassage.
Il s'agit vraiment d'établir cette confiance et ce respect. Prenons l'exemple de l'affaire Ramsey, d'accord? Le juge Ramsey. Dites-moi, combien de filles ont été victimes du juge?
Je pense que l'affaire Ramsey est extrêmement importante pour comprendre le contexte de la route des larmes. Il est difficile d'estimer l'impact sur la confiance qu'une communauté place dans le système judiciaire lorsque l'on découvre qu'un juge en exercice exploite sexuellement des filles et des enfants de cette communauté depuis longtemps et en toute impunité.
Question : qui surveille la police? Qui juge les juges?
Le juge Ramsey a été emprisonné pour avoir agressé sexuellement et rémunéré des jeunes filles en échange de faveurs sexuelles. Ramsey n'a été condamné qu'à 7 ans de prison pour le viol de ses adolescentes. Il allait être libéré d'office le 30 janvier 2009, alors qu'il n'avait purgé que les deux tiers de sa peine. Mais il n'est jamais sorti de prison.
Ramsey a trouvé mieux. Un cancer en phase terminale. Il est mort. Nous aurons tous des comptes à rendre à quelqu'un de plus grand que ce soi-disant système judiciaire, là-haut.
Et je vous le dis tout de suite, depuis l'affaire Ramsey, rien n'a changé. Rien n'a changé dans le système judiciaire. Rien n'a changé au sein de la gendarmerie pour garantir que cela ne se reproduise pas. Donc, évidemment, si une jeune femme se sent victime, à qui va-t-elle se confier?
Ce qui m'a le plus frappé lors de nos recherches dans le nord de la Colombie-Britannique, c'est le sentiment d'insécurité que les femmes et les jeunes filles indigènes ressentaient au sein de leur communauté.
Je viens d'une famille qui n'a pas seulement été victime des institutions gouvernementales. Nous connaissons tous l'époque des pensionnats. Pratiquement toute ma famille en a souffert. La conséquence de tout cela a été l'abus d'alcool, de drogue et la violence. Ma mère, qui voulait évidemment gagner de l'argent pour s'occuper de son fils unique, faisait tout ce qu'elle pouvait. Les jeux d'argent l'ont séduite, le bingo. Et elle a gagné une belle somme d'argent. C'était tard dans la soirée et elle allait utiliser cet argent, rentrer à la maison et faire la fête. Mais sur le chemin entre la salle de bingo et la gare routière, quelqu'un a profité d'elle et, vous voyez, elle n'est plus là aujourd'hui.
Lorsqu'on se penche sur la violence à l'égard des femmes, il ne s'agit pas que des femmes. Il faut aussi examiner le comportement des hommes dans leur rôle. Dans notre société indigène, chacun a un rôle à jouer.
Nous devons penser à nos hommes, et nous devons être là pour les élever et les soutenir, afin qu'ils puissent être des leaders et des guerriers.
Ce que les autres ne comprennent pas, c'est que s'ils veulent aller à l'université ou aller en ville, ce n'est pas un gros problème. Ils ont un système de transport en commun, tout cela. Alors qu'un membre de la Première Nation de Taklalek, par exemple, c'est chez moi, doit faire 3 heures de piste pour aller à l'école à Fort St. James. De Fort St. James à Prince George, il faut compter environ 2 heures. Si vous n'avez pas de véhicule, comment allez-vous vous y rendre? Et dans certaines de nos communautés, le taux de chômage atteint 92%. Vous voyez? Certains n'ont donc pas de véhicule. c'est un problème en soi. Certaines de nos jeunes femmes quittent leur communauté parce qu'il n'y a rien pour elles ou parce qu'elles sont directement impactées par les pensionnats. Si vous souhaitez faire des études supérieures ou consulter un médecin, la réalité est totalement différente de celle qu'on connaît dans le Sud, où tous les services sont accessibles.
Il s'agit d'une région rurale du Nord. Certains des services essentiels dont on a besoin sont situés dans les grands centres urbains, ce qui nécessite de nombreux allers-retours. Dans le même temps, les transports publics sont extrêmement limités. Vous avez le bus Greyhound qui a des horaires très limités. Et si vous n'avez pas accès à un véhicule personnel, vous pouvez vous retrouver dans une situation très difficile. Il faut se faire accompagner par des amis ou, comme c'est malheureusement le cas pour certaines des femmes qui ont disparu, en cherchant à se faire conduire par un inconnu sur la route.
Je m'appelle Brenda June Wilson et je suis la sœur de Ramona Lisa Wilson, qui a été assassinée en 1994, le 11 juin. Son corps a été retrouvé près de l'aéroport Smithers par deux personnes qui faisaient du 4x4 et qui se sont retrouvées coincées. Ils sont allés chercher du bois pour se sortir de la boue et sont tombés sur le corps de ma sœur.
Ramona, elle était si jeune, elle avait 15 ans. Vous savez, elle avait la vie devant elle. Et depuis qu'elle a disparu, qu'on a retrouvé son corps un an plus tard, en 1995, vous savez. Nous avons vraiment vu, personnellement, j'ai vu l'effet que cela pouvait avoir sur un parent. C'était flagrant sur ma tante Mathilda. On voit à quel point cela l'a changé et c'est tout à fait dévastateur.
Je pense que les gens ont besoin de voir que Ramona n'était pas juste un détail. Ramona n'était tout simplement pas une SDF, ou ce que les médias décrivent à la société, une prostituée, une droguée ou autre. Comme si cela rendait leur vie moins précieuse.
Nous ne pouvons pas ignorer ce qui s'est passé dans la ferme porcine de Port Coquitlam. Et dans ce cas, une fois de plus, les femmes ont été traitées comme si elles étaient jetables.
Picton sollicitait des prostituées dans un quartier et du centre-ville et les conduisait jusqu'à son élevage de porc à Port Coquitlam, dans la banlieue de Vancouver. Pendant des années, ces meurtres ont été ignorés par les autorités, même après que plusieurs familles ont signalé la disparition de leurs proches. Picton a été arrêté et inculpé de deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré. On a fini par découvrir l'ADN de 33 femmes dans sa ferme. Il s'est vanté auprès de la police d'en avoir tué 49. Les médias ont couvert l'affaire et ont grossièrement dépeint ces femmes comme des prostituées à haut risque et des toxicomanes des quartiers et de Vancouver. Pas comme des filles, des mères ou des personnes aimées. Les familles des femmes disparues et assassinées avaient réclamé des audiences publiques avant la condamnation du tueur en série Robert Picton pour 6 meurtres. Elles étaient en colère et voulaient des réponses pour ce drame.
Pourquoi toutes ces femmes ont-elles disparu du quartier est de Vancouver? Et pourquoi ont-ils mis tant de temps à identifier et à arrêter, puis à poursuivre en justice, Robert Picton, responsable d'un grand nombre de ces meurtres?
Enfin, en septembre 2010, une enquête sur les femmes disparues, dirigée par le commissaire Waliopal, a été lancée pour examiner le rôle de la police de Vancouver et de la gendarmerie dans les disparitions et les meurtres de femmes dans ce quartier. Le commissaire Waliopal a conclu que la gendarmerie n'avait pas mené ses enquêtes correctement. L'enquête et le procès Picton ont fini par coûter plus de 100 millions aux contribuables et au gouvernement canadien. Comment a-t-il pu assassiner autant de femmes sans que personne ne s'en aperçoive?
Ce serait bien mieux s'il reconnaissait les victimes et comprennent pourquoi cela s'est produit et comment ne pas laisser cette situation perdurer. Les médias dans leur ensemble seraient plus justes s'ils mettaient davantage l'accent sur les victimes.
Il y a une nette différence de traitement entre les femmes disparues quand elles sont autochtones et quand elles ne le sont pas.
Quand on se penche sur la question de la route des larmes de manière plus générale, nous devons réfléchir au fait qu'il ne devrait pas être important de faire partie d'un groupe ou d'un autre. Si on appelle pour signaler la disparition d'une personne, on veut être sûr que cette affaire sera immédiatement prise au sérieux et qu'elle fera l'objet de toutes les attentions de la part de la gendarmerie. On ne nous prend au sérieux que lorsque quelqu'un est assassiné.
Le corps d'Ayela Sarikoje, 14 ans, a été découvert un vendredi après-midi de février 2006. Un automobiliste a aperçu sa dépouille dans un fossé quelques kilomètres à l'est de Prince George, près de Tabor Mountain, sur la route 16.
L'enquête est toujours en cours. À l'heure actuelle, aucun suspect n'est tenu responsable de son meurtre. C'est pourquoi nous recevons encore aujourd'hui des informations sur sa disparition.
Lorsque son corps a été retrouvé, la famille est venue. Sa mère est venue nous voir et nous a demandé si nous serions d'accord pour nous rendre sur place et faire une cérémonie à l'endroit où se trouvait son corps.
Lorsque la jeune femme, Ayela Ogé, est décédée, ça a fait un déclic. Nous avons dit, ça suffit. Il fallait faire quelque chose.
J'ai estimé qu'une partie de ma responsabilité en tant que dirigeante autochtone élue au sein de cette communauté était d'attirer l'attention sur ce sujet.
Au même moment, Rena Zatorski, à Ledley, était elle aussi bouleversée. La nation Ledley était bouleversée. Nous avions donc déjà prévu de faire quelque chose. Rena s'est jointe à nous et nous avons uni nos forces pour organiser le symposium.
J'ai publié un communiqué de presse demandant que l'on s'intéresse au symposium pour parler des questions relatives aux femmes autochtones disparues et assassinées en particulier. Et nous l'avons organisé en environ un mois.
Le symposium de 2006 sur la route des larmes a été un moment important pour la défense des intérêts des victimes, car il a permis à la communauté de se réunir pour discuter de ce qui s'était passé exactement et de comment remédier aux meurtres et aux disparitions.
Cela a créé une sorte de masse critique qui a permis à la communauté de comprendre qu'il ne s'agissait pas nécessairement de femmes vulnérables qui ont été portées disparues. Des travailleuses du sexe et des toxicomanes. Cela concernait aussi des femmes au mode de vie et au statut socio-économique varié. Je pense que la police a commencé à prendre au sérieux les questions relatives aux femmes disparues et assassinées sur cette route après le symposium. Le public a vraiment dû faire pression et les mettre dans l'embarras pour qu'ils prennent les choses en main, qu'ils prennent le problème au sérieux et qu'ils commencent à s'intéresser à ce qui se passait. Plus de 500 personnes étaient présentes, dont les familles, des membres de la gendarmerie et des hauts fonctionnaires de la préfecture. Environ 92 organisations étaient représentées. Pour moi, cela montrait vraiment que la communauté elle-même prenait cette question au sérieux. Pour la police, c'est une toute autre histoire. mais la communauté elle-même était extrêmement intéressée par la question et voulait en parler, sensibiliser les gens et résoudre certains des problèmes afférents.
Lorsque nous avons posé des questions aux familles sur ce qui aurait pu être fait, sur ce que la gendarmerie aurait pu faire de mieux, sur ce que les services d'aide aux victimes auraient pu faire de mieux, que aurions-nous pu, en tant que société, faire mieux? Toutes les familles ont répondu à cette question. Les familles des Premières Nations. Le dernier à s'exprimer était Jacoa, et nous lui avons posé les mêmes questions.
Lors du symposium, trois ou quatre familles ont parlé de leur expérience avant nous. Et, dans tous les cas, c'était le contraire de ce que nous avions vécu. J'ai dit que c'était très troublant de voir comment nous avions été traités par rapport à la réaction que les autres familles avaient reçue.
Il a dit que lorsque lui et sa femme Betty sont allés signaler la disparition de leur fille, la gendarmerie s'est montrée si serviable et très préoccupée. Ils se sont tout de suite occupés de l'affaire.
Et je pense que cela montre vraiment, vous savez, qu'il y avait bel et bien ce racisme systémique auquel nous ne cessons de faire référence.
Certains des officiers de police avec lesquels nous nous sommes entretenus au cours de nos recherches ont parlé d'une approche très différente après l'affaire Nicole Hoare. Une approche très différente à l'égard des meurtres et des disparitions. Ils ont été pris beaucoup plus au sérieux, et qu'avant cela, ils n'avaient absolument pas reçu l'attention qu'ils méritaient.
Je pense que, malheureusement, de nombreuses recommandations issues du symposium sur la route des larmes n'ont pas été appliquées ou encouragées.
Qu'un système de transport par navette soit mis en place entre chaque ville située le long de la route 16, définie comme la route des larmes. Que le nombre, le type et la fréquence des services sociaux et de santé essentiels soient augmentés pour être fournis directement aux communautés des Premières Nations situées le long de la route des larmes. Que la gendarmerie poursuive son enquête officielle sur les affirmations de la communauté autochtone concernant le nombre réel de femmes disparues.
Je pense que c'est l'une des principales frustrations que suscitent les 33 recommandations, à savoir qu'il n'y a pas, ou pratiquement pas d'argent disponible pour les mettre en œuvre.
Ce qui a changé depuis 2006, c'est le groupe PANA. Il s'agit du groupe d'enquêteurs. Ils informent les familles directes des victimes.
Je m'appelle Gary Chimkaruk. Je suis gendarme. Je suis inspecteur. Je suis l'officier responsable de l'enquête PANA, sur ce que l'on appelle communément la route des larmes. Il faut d'abord préciser que l'affaire de la route des larmes en général traite de tant d'autres questions socio-économiques. Le PANA se concentre sur les femmes assassinées et disparues du nord de la Colombie-Britannique.
Le projet EPANA a été lancé à l'automne 2005 dans le cadre des opérations criminelles de la division NO, avec pour mission d'examiner et d'enquêter sur les affaires non résolues. En lien avec les routes 97, 5 et 16. Les autorités ont pris en charge 9 enquêtes en 2006. En 2007, les cas ont doublé, passant de 9 à 18. Le projet EPANA comprend 13 enquêtes sur des homicides et 5 enquêtes sur disparition. Certains cas remontent à 1969. Le nombre réel de femmes disparues ou assassinées dans le nord de la Colombie-Britannique est inconnu. L'EPANA enquête sur 18 femmes. Mais ce nombre serait supérieur à 40. Au Canada, plus de 600 femmes autochtones ont été portées disparues et ou assassinées. La majorité de ces cas ont été tout simplement négligés.
Et
Il y a tant d'autres femmes disparues et qui n'ont pas été incluses. L'une d'entre elles était ma sœur Teresa Humphrey. Ma sœur a été assassinée ici à Prince George, il y a 18 ans. Elle devait être en état d'ébriété, car elle a été expulsée de l'endroit où elle se trouvait. Et puis elle a été ramassée par un camion. Il l'a emmenée sur un chemin forestier. La police nous a dit qu'elle avait été traînée. Le type l'a traînée dans un camion et nous n'avons pas été autorisés à la voir lors de l'enterrement parce qu'elle n'était pas reconnaissable. Et à peu près au même moment, le même homme a été arrêté pour Marnie Blanchard. Elle cherchait aussi à se faire conduire. Donc, ce type l'a emmenée. Ils l'ont arrêté pour elle, mais ils n'avaient pas assez de preuves, alors ils l'ont relâché. Quand ils l'ont laissé partir, c'est la kill. Il a tué ma sœur.
En fait, j'étais à une fête de Noël ce soir-là et j'étais seul. Et à 8 heures du soir, j'ai eu envie de partir. Je suis rentré chez moi. À minuit, j'ai reçu un appel de la gendarmerie. Ils voulaient savoir si Lorraine était à la maison. Et j'ai dit, non, elle est avec sa mère. Et j'ai demandé, que se passe-t-il? Ils ont expliqué qu'ils avaient arrêté quelqu'un sur la route en direction de Fort Saint-James et que si Lorraine était à la maison, quelqu'un utilisait sa carte d'identité, parce qu'il l'avait trouvée dans le véhicule. J'ai attendu environ une heure, puis j'ai appelé le central et je leur ai demandé. Je leur ai expliqué ce qui se passait, et ils allaient demander à quelqu'un de me rappeler immédiatement. J'ai attendu une heure, et personne n'a rappelé, alors j'ai pris ma voiture pour aller voir les flics. J'ai donc conduit jusqu'au site et quand je suis arrivé, le garde-chasse se tenait là, blanc comme un linge. Je leur ai dit qui j'étais et que je voulais savoir ce qui se passait. Ils ont dit qu'ils enquêtaient sur un homicide et que personne ne pouvait monter là-haut. C'est là que j'ai compris.
Nous pouvons annoncer aujourd'hui que 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré ont été retenus contre Cody Allan Legebokov, 21 ans.
Le portrait d'un jeune tueur en série présumé opérant à Prince George se dessine ce soir. Ce matin, la police a révélé que Cody Legebokov est accusé des meurtres de 3 femmes et d'une adolescente.
Legebokov a été arrêté dans la nuit du 27 novembre 2010, lorsqu'un agent de la gendarmerie a arrêté un pick-up suspect qui sortait d'une piste forestière et s'engageait sur la route 16. Ses traces dans la neige ont été suivies le long de la piste pour retrouver le corps de Lorraine Dawn Leslie, âgée de 15 ans, quelques heures seulement après qu'elle ait été assassinée. Legebokov est désormais lié au meurtre de Gilles Stutchenko, âgé de 35 ans. Cynthia Mass, et une quatrième victime présumée, Natasha Montgomery, 23 ans, dont le corps n'a pas encore été retrouvé.
À l'enterrement, le cercueil était vide. Il devait nous rendre Lorraine le jeudi, les funérailles ont été fixées au samedi. Mais ils ont ensuite demandé l'autorisation de l'envoyer en Pennsylvanie pour d'autres tests, nous avons accepté, donc elle n'était pas là. Nous avons fait la cérémonie quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Il y a toujours cette question. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi nous? Et, vous savez, c'est tellement irréel. C'est toujours le cas, mais... C'est réel, mais c'est surréaliste. Et c'est? Je ne sais pas. On dit que tout arrive pour une raison. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il a été arrêté.
Dans le cas de Madison Scott, elle venait d'une petite communauté et cette communauté s'est mobilisée pour lui apporter un soutien massif. Ils connaissaient tous Madison et sa famille. C'est un cas tragique. C'était une personne agréable et elle était à une fête avec des amis. Le fait qu'elle ne soit pas rentrée chez elle et qu'elle n'ait pas contacté ses amis n'est pas du tout dans ses habitudes. Et puis la découverte macabre en retournant au lac Oxbach. Son pick-up et sa tante sont toujours là, mais pas Madison. Cela fait froid dans le dos même pour un enquêteur chevronné.
Nous sommes les parents de Madison Scott, âgée de 20 ans. Notre fille Maddie a été vue pour la dernière fois le samedi 28 mai au lac Hogsback, juste au sud de la ville de Vanderhoof, où nous résidons.
L'information a été immédiatement diffusée au public et notre équipe de recherche et de sauvetage a été mise sur pied. Des milliers de bénévoles se sont mobilisés. Les services cynophiles, les services aériens et l'équipe de plongée ont participé à l'opération, car le lac Hogsback est assez profond à cet endroit. Et pourtant, nous n'avons pas réussi à découvrir ce qui est arrivé à Maddie, et nous n'avons pas réussi à la retrouver.
C'est pourquoi nous souhaitons annoncer que nous offrons une récompense pouvant aller jusqu'à $15,000 pour toute information permettant de retrouver notre fille, Madison Scott, saine et sauve. Les gens circulent dans toute la province, ils voient des affiches et ils sont au courant. Nous avons des amis un peu partout dans la province et ils ont vu les affiches et savent tout ce qui se passe.
Madison s'ajoute à une liste de femmes qui ont laissé leur famille et leur communauté en état de choc. Leurs proches ont disparu, ils cherchent des réponses. La famille Scott s'est montrée très proactive dans la collecte de fonds pour retrouver leur fille, augmentant leur récompense de $15,000 à $100,000 pour toute information permettant de retrouver Madison.
C'est horrible de ne pas savoir.
C'est plus que 18 femmes. La route des larmes pleure Teresa Lafray, Marnie Blanchard, Lorraine Leslie, Natasha Montgomery, Madison Scott et bien d'autres. Elles ne correspondent peut-être pas aux critères des enquêtes PANA, mais elles ont disparu dans une zone géographique proche de la route qui est en proie à des problèmes socioculturels et socio-économiques qui mettent les femmes en danger.
Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes présentes. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour nous. Veillez sur nous. Chaque jour, chaque nuit, veillez à notre sécurité. Amen. Merci.
Ma tante, depuis que Ramona a disparu, continue ses marches. Les restes de Ramona ont été retrouvés un an plus tard, mais elle le fait quand même parce qu'elle dit, je sais. Ce que l'on ressent lorsqu'on n'a pas tourné la page. Et nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à Ramona. Il y a donc encore un élément qui reste en suspens. Cependant, si elle fait ce travail, c'est à cause des familles qui n'ont pas retrouvé leurs proches.
Le 3 mai 2012, le laboratoire médico-légal du département de la police d'État de l'Oregon a obtenu une correspondance ADN CODI. La correspondance ADN concerne un citoyen américain, Bobby Jack Fowler, qui est né et a passé la majeure partie de sa vie aux États-Unis, et qui a un lourd passif de violences et de crimes tels que tentatives de meurtre, agression avec une arme dangereuse, agression sexuelle, incendie criminel, enlèvement, tentative d'agression sexuelle et utilisation d'armes à feu. Si nous ignorons beaucoup de choses, nous savons qu'il était itinérant et qu'il voyageait entre les États américains et même entre les pays en une journée. Il fréquentait les bars et les restaurants, était violent envers les hommes et les femmes et prenait des autostoppeurs.
Colleen était une jeune fille de 16 ans douce et innocente. Et il n'y a toujours pas de mots au monde pour exprimer à quel point on lui a fait du mal. Il a fallu attendre longtemps pour obtenir des réponses, et même si le résultat est quelque peu insatisfaisant, car cet individu n'aura pas à être jugé pour ce qu'il a fait. Nous sommes réconfortés par le fait qu'il était en prison lorsqu'il est mort et qu'il ne peut plus faire de mal à personne.
Nous parlons souvent de statistiques, comme le nombre de 582 disparus, mais chacune de ces femmes ou de ces jeunes filles disparues est une perte dévastatrice pour une famille, un trou dans le cœur d'une communauté.
Ma sœur me manque beaucoup. Elle, tout ce que j'ai fait, créer ma propre entreprise, elle était là pour moi. Lorsque je conduisais, elle me servait mon café et m'aidait dans tout ce que je faisais. Elle a toujours été là pour moi. Nous n'avions qu'un an d'écart.
C'était une mère, ma sœur, et, vous savez, elle était juste. Elle était très aimante. Elle était ma meilleure amie et... Oui, elle nous manque vraiment et elle me manque encore, vous savez?
Nos Noëls. C'était notre moment préféré. C'est parce que c'est le seul moment où l'on peut voir les familles, les mères en général, s'efforcer de faire bouger les choses pour les enfants. Et c'est la seule fois où elle s'est vraiment assurée que j'avais tout ce dont j'avais besoin pour me montrer que j'étais aimé. Elle a toujours voulu créer un environnement familial parce que j'étais fils unique. Noël était important et tout était permis à Noël. Vous comprenez? Et je me souviens qu'elle était vraiment douée pour ça.
La route des larmes ne se résume pas à un numéro. Il s'agit de l'humanité. Il s'agit d'effacer notre histoire de discrimination et de forger un nouvel avenir avec un regard impartial.
Ce que je voudrais faire, c'est évaluer les recommandations qui ont été adoptées depuis 2006. Et je pense que ça marquerait un échec pour le gouvernement de la Colombie-Britannique. Il n'y a pas toujours d'efforts coordonnés et concertés en matière de transport. Nous avons toujours les mêmes problèmes. Il y a encore des jeunes femmes qui font du stop pour se rendre dans les villes.
Il est évident que ce manque de transport expose les femmes à la violence. Il incombe donc au gouvernement de rendre les transports accessibles, de veiller à ce que les femmes puissent se rendre en toute sécurité d'un point A à un point B lorsqu'elles ont besoin d'accéder à des services essentiels, vous voyez, pour une vie quotidienne dans le Nord. Nos vies sont liées aux femmes qui ont disparu et ont été assassinées au fil des ans. Il ne suffit pas qu'un groupe au sein de notre communauté tente de s'attaquer à ce problème. Il est très important de se rendre compte qu'en tant que communauté, nous devons faire plus.
Il est essentiel que nous parlions à nos jeunes, que nous ayons des personnes qui jouent un rôle de leader, qui parlent de certaines de ces choses qui se passent.
Et je ne peux qu'espérer que, quelles que soient les conséquences de ce type de discussion, que cela conduise à obtenir des réponses aux questions qui puissent rassurer les familles sur la situation. Vous savez, comme vous le dites, au final, si vous sauvez une vie, c'est... ça en valait la peine.
En tant que leader, je pense qu'il est de ma responsabilité de m'assurer que je partage mon histoire, parce qu'il suffit qu'une personne entende cette histoire pour que sa vie en soit changée.
Nous devons aller de l'avant. Nous ne pouvons pas nous apitoyer sur notre sort et tout ça. Nous devons. Il y a trop de gens qui ont besoin d'être sensibilisés.
Je dois croire qu'il y a de l'espoir, sinon je ne ferai pas ce que je fais. Bien sûr, il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Je pense que lorsque nous examinons l'ensemble de la question de la violence à l'égard des femmes, il ne s'agit pas d'une seule initiative, ni d'un seul projet. Il s'agit d'un véritable changement de mentalité, mais pas seulement, il s'agit aussi d'un changement de cœur.
La question posée par ces affaires et par les chercheurs sur les droits de la femme est : qu'est-ce que le gouvernement doit aux femmes ? Quelles sont les responsabilités du gouvernement en matière de prévention de la violence à l'égard des femmes et d'enquête sur cette violence ?
Pour moi, la question la plus urgente est de savoir ce qui arrive à nos filles en ce moment, aujourd'hui, et quel avenir nous leur laissons. Car le succès pour les Premières Nations se mesurera à ce que la 7e génération dira de vous. Et si la 7e génération ne se souvient pas de vous, vous n'avez rien fait. Je pense donc qu'il est important pour nous de tourner la page sur cette période de dévastation et d'homicide des femmes des Premières Nations.
C'est ce qui permettra de garantir qu'aucune autre femme ne disparaisse. Vous savez, qu'aucune autre femme ne soit violée, qu'aucune autre femme ne devienne vulnérable. Et, vous savez, il y aura un jour, que j'espère assez proche, où toutes les femmes seront protégées, où toutes les femmes seront en sécurité, vous voyez ? Et c'est dans ce but que nous devons continuer à travailler.
True.